Bon, c'était encore un peu timide hein, pour qu'on arrive à rivaliser avec un stade de foot, mais ça va venir, hein, c'est un entraînement. Puis après, on sera bien. Mais c'était chouette en tout cas de louer le Seigneur, pour l'applaudir, l'acclamer. Surtout qu'on n'est pas nombreux ce matin. Ce matin, je me suis dit, oh là là, ça me rappelle une période où on avait moins d'accès à l'église. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Période qu'on appelle la période Covid. C'était... Je me souviens d'une fois où j'ai prêché devant 5 personnes. Donc c'était... Je suis content que vous soyez là ce matin. On est plus que 5. Donc je suis vraiment réjoui d'être là ce matin, de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 16. On va lire juste le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ?» Donc c'est Dieu qui parle à Samuel, le prophète. « Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » On peut juste mettre le PowerPoint, comme ça je peux vous mettre le texte. Voilà cette parole de Dieu qui dit « J'ai vu un roi pour moi. » Je ne sais pas si ça vous frappe de dire « Dieu qui dit ça, j'ai vu un roi pour moi. » On est ici dans un moment particulier de l'histoire d'Israël, on a un moment charnière. Le peuple d'Israël veut un roi comme les autres nations. Donc Dieu a dit à Samuel « Bon, s'ils veulent un roi, qu'ils en prennent un. » C'est le roi choisi par le peuple quelque part, ce fut le roi Saül. Et ce roi-là n'était pas le roi choisi par Dieu. Enfin, c'est le peuple qui voulait ce roi. Et on voit que ce roi-là s'est détourné du Seigneur et que Dieu, à ce moment-là, fait quelque chose de nouveau. Il va dire à Samuel, alors que Samuel porte encore le deuil de dire « Mais comment se fait que ce roi ne marche pas avec Dieu comme il aurait dû, Saül ?» Dieu va dire quelque chose de nouveau à Samuel. Il lui a dit « J'ai choisi un roi pour moi. » Comme si le premier roi, c'est vous, le peuple, qui avez voulu le choisir, le roi Saül. Mais moi, j'ai vu un roi pour moi. Qu'est-ce que Dieu a vu d'après vous? C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a vu? Je pense qu'il a vu un cœur qui soit beau. Un cœur qui soit beau. Parce que quand... Le prophète Samuel arrive chez Isaïe pour voir tous ses fils et qu'il les fait défiler devant lui. Et que Samuel, qui est le prophète, celui qui voit, qui devrait voir lequel Dieu a choisi, le prophète, le voyant, ne voit pas justement. Et on voit qu'il se trompe. Et il fait défiler les fils et il se dit, un roi, je ne sais pas si vous êtes déjà à cette époque-là, il faut comprendre dans le contexte de l'époque, un roi est un roi aussi guerrier. C'est une époque où il faut protéger, il faut étendre son royaume, et le roi est un roi guerrier. Et là, on voit qu'il fait défiler les fils d'Isaïe, et Samuel dit « Ah, ça doit être celui-là, parce qu'il a l'air costaud, il a l'air fort. » Et il va juger à partir des critères normaux d'un roi, les critères humains d'un roi. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? C'est le verset suivant, verset 7. « Ne prends pas garde à son apparence, à sa haute taille, très utile pour un roi guerrier, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit, Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, Samuel s'est un peu trompé, parce qu'il il a un peu regardé rapidement à l'apparence, à la superficialité. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça. On juge les situations très vite sur les réseaux sociaux, sans aller en profondeur. On est là dans nos rapports, les uns avec les autres, comme sur Insta. On fait défiler les informations, on fait défiler les images, on fait défiler les choses et on pense que c'est comme ça. Mais Dieu voit plus loin. Dieu va regarder plus loin que ce que nous pouvons voir, que ce qu'on peut s'imaginer, qu'on peut évaluer de nous-mêmes humainement. Dieu regarde au cœur. Quand Dieu scanne, quand Dieu cherche un roi, il ne cherche pas comme nous cherchons, comme à l'époque on cherchait, en disant « il faut un roi qui soit comme ci, comme ça ». Quand nous, on cherche aujourd'hui peut-être quelqu'un pour une fonction, on peut chercher par exemple un pasteur d'une église, on va dire « oh, il faudrait que le pasteur il fasse ci, qu'il fasse ça, ce serait trop bien qu'il soit un bon prédicateur, qu'il soit quelqu'un qui ait des bonnes relations, ah, et puis ce serait bien qu'il soit bien avec les jeunes, et puis on fait un cahier des charges de tout ce qu'on veut ». Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu met tout ça de côté. Et Dieu scanne et regarde le cœur. Le cœur. Voilà ce que Dieu veut regarder. Et vous savez, parfois, on montre ce qu'on veut bien montrer de nous. Et on ne montre pas souvent ce qui est au fond de notre cœur. Je ne pense pas que des fois on a envie de tout montrer ce qui est au fond de notre cœur, personnellement. Et je pense qu'on veut montrer ce qu'on veut bien montrer sur les réseaux sociaux, dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos relations. Mais Dieu regarde plus loin, il regarde là où personne ne peut regarder, au fond de ton cœur. Même là où tes plus proches amis ne peuvent pas voir, même ton conjoint, Dieu voit ton cœur. J'aimerais juste définir, avant de continuer plus loin, parce que je vais commencer une série, qui est que Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Et je pense que ce serait bien qu'on puisse s'arrêter juste sur la notion de cœur dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que cette notion-là, elle n'est pas comme on la comprend aujourd'hui. Si je vous dis, j'ai un coup de cœur, j'ai été touché dans mon cœur. Très souvent, ça a un rapport avec les émotions, vous êtes d'accord ? Tout ce qui touche au cœur aujourd'hui, c'est le cœur, vous voyez, c'est l'amour, les émotions. Parce qu'on a un héritage historique. On a mis en opposition la raison et le cœur, par exemple. Blaise Pascal disait, le cœur a ses raisons, vous connaissez cette citation ? Que la raison ne connaît pas, ignore. Hein, parce que ça veut dire qu'avec notre intelligence, on ne peut pas capter certaines choses qu'avec le cœur, le côté émotionnel. La Bible ne fait pas du tout cette distinction quand elle parle du cœur. C'est très important de comprendre, de ne pas importer nos façons de comprendre modernes dans un texte qui a été écrit bien avant, dans un autre contexte. Et le cœur, en fait, dans la notion biblique, c'est tout ce qui concerne l'être humain dans son intériorité, dans son « je », tout ce qu'il est au plus profond de lui-même. Quand vous êtes seul avec vous-même et que vous pensez, c'est votre cœur, avec votre intelligence, avec vos émotions. Quelque part, le cœur, dans le sens biblique, regroupe toutes ces notions-là. C'est le siège de ma personnalité. C'est le siège de ma volonté, de mes décisions, de ce que je décide de faire, ce que je pense sur l'un ou sur l'autre. C'est tout ça, le cœur, dans le sens biblique. Quand il est dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », c'est pour dire « tu dois l'aimer totalement avec tout ce que tu es dans ton intériorité ». Tout ce qui n'est pas le corps, en fait, que ce soit l'âme, l'esprit, tout ce que vous voulez, tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée. Enfin, c'est cette globalité, le cœur. Je trouve que c'est important de pouvoir l'expliquer, qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu veut dire, du coup, quand on parle du cœur. Et qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que la Bible veut dire quand on parle du cœur de David, du cœur de Saül, du cœur de ces personnes. Et la Bible nous dit dans le livre de Samuel que David était un homme selon le cœur de Dieu. On peut dire à l'image de Dieu. Comment Dieu pense, comment Dieu ressent, quelle est la volonté de Dieu. Et je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse se faire entre chrétiens. Un nouveau compliment que vous pouvez faire à un frère ou une sœur chrétienne, c'est de dire, tu es un homme, tu es une femme, selon le cœur de Dieu. Waouh! Je pense que c'est un magnifique compliment, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez le dire peut-être entre vous, parce que comme ça, vous pouvez vous encourager à travailler ça, hein, pour une prochaine fois. Est-ce que vous vous retournez peut-être vers l'un ou vers l'autre et vous lui dites « Tu es un homme, tu es une femme, selon le cœur de Dieu. » Voilà, je vous laisse quelques secondes. Il y a des couples là, c'est un peu difficile à se le dire. Moi, je vous pose une question ce matin. Comment pensez-vous que David pouvait-il être un homme selon le cœur de Dieu avec tout ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a fait que des choses bien, David ? petite question. Hein. Je crois qu'il a quand même tué quelqu'un, non? Il a pris la femme de quelqu'un. Il a fait un recensement à un moment donné que Dieu ne lui avait pas demandé. Et Dieu lui a dit à la fin de sa vie, tu ne peux pas construire le temple de l'Éternel parce que tu as trop de sang sur les mains. Parce que c'était un homme de guerre. Alors, comment se peut-il que Dieu dise que c'était un homme selon son cœur? Petite question. Surtout qu'après les rois qui ont succédé David, on va le prendre comme référence. On va dire, tel roi n'a pas marché comme David, son père, qui a eu un cœur entier pour l'Éternel. Il y a des passages et on le prend en référence. Alors, on va essayer de voir justement qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de cette parole. Est-ce que c'est que Dieu nous demande une perfection morale, une vie sans erreur, comme peut-être celle que les pharisiens voulaient vivre en apparence, ou est-ce que c'est autre chose que Dieu voit en David? Une attitude de cœur, un cœur droit. Est-ce que c'est d'autres notions justement qui sont là, que Dieu voit en David? Parce que David a fait des erreurs, il s'est repenti, mais il a su garder son cœur pour qu'il reste souple, malléable, reste humble devant Dieu. Et on verra beaucoup de choses au travers de cette série que nous commençons. David, un homme selon le cœur de Dieu. Alors, j'aimerais voir plusieurs aspects du cœur de David. Et vous savez, on va prendre aussi des exemples concrets dans sa vie, dans les choses concrètes, parce que c'est dans ces moments-là, dans des situations, que notre cœur se révèle et qu'on voit comment on fonctionne. J'aimerais d'abord, premièrement, aborder un aspect du cœur de David. C'était un homme qui avait un cœur entier, entier pour Dieu. Ce qui produit parfois que la faveur de Dieu s'éloigne de nous, comme elle s'éloigne pour Saül, c'est qu'on ne peut ne pas avoir un cœur entier pour Dieu. Vous savez, le roi Saül, qui a précédé David, il a bien commencé, mais il a mal fini. Et c'est ce qui fait que Dieu n'a pas donné la royauté, ne lui a pas laissé la royauté, mais l'a donnée à David. Et c'est vrai que si on regarde Saül, je pense que sur le plan humain, il a répondu à tous les critères qu'un roi peut remplir. Si on regarde, c'était un homme de haute taille et il les dépassait tous. C'était un homme fort, vaillant. Sur le plan humain, il a répondu aux critères humains. Mais le scan de Dieu, il est redoutable. Et le grand défaut du cœur de Saül, c'est que son cœur n'était pas tout entier pour Dieu. Il avait un cœur partagé. D'un côté, il écoute Dieu, mais de l'autre, il va écouter la voix du peuple, les pressions du peuple. Prenons un exemple où ce cœur est révélé. Dans le livre de Samuel, au chapitre 13, vous pouvez suivre avec moi. Donc, on ne va pas tout lire, hein. Je vais essayer de relever plusieurs choses. Mais Saül est passé par une situation où son cœur partagé a été révélé. Alors, dans ce chapitre 13, le contexte, c'est qu'il y a une guerre entre le peuple des Philistins et le peuple d'Israël. Et les deux armées se font face à face. Vous imaginez un champ de bataille. Et avant que le combat commence, à cette époque, on offrait des sacrifices au dieu du peuple qui allait affronter l'autre peuple. Parce que voilà, c'est une autre époque. À cette époque-là, le peuple qui gagnait le combat, Dieu était avec lui. Donc il y a deux peuples qui s'affrontent, mais aussi deux dieux qui s'affrontent. Les dieux des Philistins et le dieu d'Israël. Alors avant une bataille, on offrait des sacrifices à son dieu pour dire « Sois avec nous, nous allons avoir la victoire ». Et ce n'était pas le roi qui faisait ça, ces sacrifices, c'était les sacrificateurs. C'était très distinct. Un roi menait les gens sur le combat, amenait les gens à la victoire dans la bataille, mais le roi ne faisait pas les sacrifices. C'était le rôle du sacrificateur. Et là, le sacrificateur, c'est Samuel. Et voilà que ces deux peuples, ces deux nations s'affrontent, font leurs sacrifices, et on voit que Samuel tarde à venir. Samuel n'arrive pas. Que va faire Saül, le roi Saül ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a demandé des choses à Dieu et que la réponse tarde à venir ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments ? Qu'est-ce que notre cœur fait dans ces moments de tension où on attend quelque chose de Dieu et ça ne vient pas ? C'est là que notre cœur est testé. C'est dans ces moments-là. Et qu'est-ce que va faire Saül à ce moment-là ? Il va avoir peur. Il va écouter le peuple. Il va dire, mais il va avoir peur qu'il se disperse, qu'il s'en aille. Et il ne va plus donner d'importance au commandement de Dieu. Et il va faire le sacrifice lui-même pour entrer dans le combat. Et il avait à peine fini ce sacrifice que le texte dit « aussitôt ». Comme si Dieu attendait le test, comment... Aussitôt Samuel est arrivé et il va lui dire, quelque part, si tu avais fait confiance à Dieu, si ton cœur avait été tout entier pour lui, si tu avais été, tu l'avais mis à la première place, tu avais attendu, tu avais obéi à son commandement, alors Dieu aurait affermi ton règne et Dieu aurait été toujours avec toi. Et on va voir ce que Samuel va dire à Saül à ce moment-là. Il va dire, maintenant ton règne ne tiendra pas. C'est 1 Samuel 13, verset 14, pour ceux qui prennent des notes. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Waouh, c'est fort, hein? Dieu a testé le cœur de Saül et le test a montré, a révélé que son cœur était partagé, qu'il n'était pas tout entier à Dieu. Et David, lui, remportera ce test tout au long de sa vie. Le signe d'un cœur en bonne santé, pour nous, c'est un cœur tout entier pour Dieu. Le contraire, peut-être dans le langage du Nouveau Testament, c'est un cœur partagé, c'est un cœur charnel. On utilise ce mot des fois. Ce cœur charnel, c'est un cœur partagé. La Bible nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Il y a cette injonction, « Garde ». Attention, il y a un risque que tu ne gardes pas ton cœur. Et dans le verbe « garder » ici en hébreu, il y a là cette notion de veiller, de préserver contre les dangers, de tenir secret, de garder, de même de bloquer et de fermer. Alors aujourd'hui, on dit qu'il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Mais il y a des choses, il ne faut pas être ouvert au niveau de son cœur. Notre cœur est tellement précieux, c'est un lieu de bataille tellement précieux, le théâtre d'un combat qu'il nous faut, nous sommes invités à veiller soigneusement sur ce cœur-là. Parce que tu peux bien commencer comme Saül, qui avait un beau cœur au départ, et un petit à petit, dans la vie, il y a du succès, il y a des réussites comme Saül en a eu, et ton cœur peut se corrompre. Tu peux laisser y entrer l'orgueil, le succès. Vous savez, c'est plus facile, je trouve, peut-être que je me trompe, mais c'est dans les moments les plus compliqués dans ma vie, personnellement, les plus difficiles, où ça ne se passait pas comme j'avais pensé, que j'étais proche de Dieu. Parce que j'étais là, « Seigneur, viens à mon secours, c'est difficile ce que je vis. » Et c'est vrai, je criais à lui. Mais les moments les plus compliqués, ce n'est pas ces moments-là. Les moments où on peut s'éloigner de Dieu, c'est quand ça marche, quand on a du succès, quand on réussit, quand on prie, les choses arrivent, quand on commence à réussir dans des choses. Parce qu'à ce moment-là, des choses, si on ne veille pas, des choses peuvent s'introduire dans notre cœur. On peut y laisser entrer bien des choses. Et vous savez, humainement, ça ne se voit pas. Tu peux cacher tout cela aux êtres humains, tout cela à ce qui t'entoure, mais au fond de ton cœur, quelque chose est en train de se mettre en place. Vous savez, qu'on soit jeune chrétien, vieux chrétien, qu'on soit pasteur, ça nous guette tous. Et c'est encore plus difficile pour un pasteur ou quelqu'un qui a une responsabilité d'en parler. Parce qu'on ne veut pas montrer qu'on a de la jalousie dans le cœur. On ne veut pas montrer qu'il y a de la convoitise. Il faut bien paraître. Ce n'est pas évident. Quand un pasteur engage un jeune pasteur et que ce jeune pasteur a plus de succès que lui, prêche mieux, il a une meilleure relation avec les autres, il est drôle, il a une écoute incroyable. Il faut être bien dans ses baskets. Hein. Quand on le forme, en plus, on est son maître de stage. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un maître de stage extraordinaire. Un maître de stage qui a formé beaucoup de pasteurs. Et j'étais son dernier stagiaire, alors qu'il partait à la retraite. Et il se réjouissait de mes succès. Vous savez, comme un parent avec ses enfants, qui se réjouit que son enfant aille plus loin que lui. Ça, c'était un beau cœur. Et ça, il faut le garder, ce cœur-là. Parce que quand on arrive avec 40 ans d'années de ministère, et qu'on a un cœur comme ça, je dis chapeau. Chapeau que d'être dans ce cœur de père qui dit, mais waouh, je suis avec toi. Va plus loin que moi. Waouh, je suis content que tu réussisses. Super. Ce sont des choses qu'on ne montre pas, le cœur, mais qu'il nous faut traiter. Parce que vous savez, si on ne traite pas ce genre de choses à la racine, au démarrage, dans le secret de notre cœur, eh ben, c'est comme une métastase qui s'installe dans notre vie et qui va proliférer dans notre vie. Et ça va produire des petits. Et à un moment donné, c'est le cancer généralisé. Et là, ça se voit. Et là, ça se voit. Vous perdez des cheveux. Vous commencez à avoir vous perdez du poids. Et là, tout le monde le voit. Et c'est comme ça que des fois, on ne comprend pas certaines situations. On se dit, mais tel homme de Dieu, telle personne, waouh, quel exemple. Ça, c'est un homme solide. Vraiment. Puis après, on apprend quelques années après, quelques temps après, on dit, mais il lui est arrivé ceci, cela, quoi ? Un divorce ? Ou un frère en Christ ? Quoi ? Il a abandonné la foi ? Comment ça ? On ne comprend pas. On peut même être choqué des fois. Parce qu'on arrive au moment où le cancer se voit et qu'il est tellement avancé que ça se voit aux yeux de tous. Alors, dans le secret de notre cœur, quels sont les choix que nous faisons ? Posons-nous la question ce matin. Dans notre gestion de ce qui nous arrive dans notre situation de vie, quels sont nos choix, nos gestions, nos motivations profondes dans notre cœur ? Qu'est-ce qui m'anime au fond de moi ? Est-ce que mon cœur est partagé entre Dieu et autre chose ? Entre Dieu et peut-être l'amour d'autre chose que l'amour de Dieu. Ça peut être quelque chose que j'apprécie et mon cœur est partagé. Dans 1 Jean, l'épître de Jean, il est dit, au chapitre 2 et au verset 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Voilà un cœur partagé. Partagé entre deux amours. Si jamais le texte suivant que je vais vous lire, il est un petit peu violent, parce qu'il s'adresse à une église en fait. J'aimerais juste relever, pas tout le passage, mais c'est les versets 4. Le verset 4, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, les passions de vos cœurs. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde et inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde ne se rend ennemi de Dieu. Alors Dieu aime le monde, ce n'est pas le problème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il n'aime pas ce qu'il y a parfois dans le monde. Le monde entier n'est pas mauvais, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et c'est dans ce sens-là qu'un cœur qui est dans le monde, comme nous, ne doit pas être un cœur partagé. Et ce qui est frappant dans ce passage de Jacques, on pourrait lire tout le passage, il est clairement dit que Dieu ne répond pas à nos prières parce que l'état du cœur n'est pas bon. Ah bon ? Moi j'ai cru que si je jeûnais une semaine, que si je priais des heures dans la présence de Dieu, que si je faisais ci, si je faisais ça, si je proclamais des paroles dans la prière, Dieu va répondre. Vous savez, un peu comme si je mettais des pièces dans un distributeur jusqu'à ce que la bouteille de coca tombe. Pas pour moi le coca, pour ceux qui peuvent se permettre. Mais ce texte nous dit tout le contraire. La convoitise, les passions du cœur, l'orgueil, la médisance sont des obstacles à l'exaucement. Vous voulez voir des exaucements dans vos vies ? Commençons par régler les questions de notre cœur. Alignons-nous, alignons notre cœur avec le cœur de Dieu. Dieu ne va pas s'ajuster à notre avis. C'est plutôt à nous de chercher ce qui est agréable au cœur de Dieu et de nous y aligner. Et c'est à nous de faire un choix dans notre cœur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation que Dieu ne vous répond pas. Alors c'est vrai que des fois, il y a des temps d'attente. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça, n'y a pas des temps d'attente. Mais si vous vivez un blocage trop long vis-à-vis de Dieu, il faut se poser des questions de notre côté. Car lui, Dieu est fidèle. Dieu répond. Dieu donne. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Et Dieu nous invite. Cherchons dans sa parole. Soyons des chercheurs et des chercheuses qui puissent trouver dans la Bible ce qui est agréable au cœur de Dieu. Afin que tous les blocages dans nos vies soit enlevé et que la faveur de Dieu soit sur nous. Un cœur entier pour l'éternel. Nous sommes vraiment encouragés à ne pas avoir de duplicité, de malice dans notre cœur. Je termine ce cœur entier pour Dieu par ce passage de Matthieu au chapitre 10 et au verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dit Jésus, il parle à ses disciples. On est dans un contexte où il les envoie en mission, donc c'est pas simple. Hein. Ils vont dans le monde, hein, au milieu des loups. Parce que le monde, il y a des gens bien, puis il y a des loups. Et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Vous avez déjà lu ça ? Qui avait compris ça ? Chaque fois que je lisais ce verset, je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous dit là ? Prudents comme des serpents. J'étais en Afrique, j'ai appris que les serpents sont très prudents. Mon père m'a raconté des histoires sur les serpents, donc il semblerait que je n'ai jamais poussé la réflexion plus loin. Mais j'aimerais m'arrêter sur simple comme une colombe. Dieu nous demande deux attitudes dans le monde, dans la société. Il ne demande pas de ne pas regarder Insta, il ne demande pas de ne pas aller, je ne sais pas, n'importe où. Enfin, les seules choses qu'il nous dit en tant que chrétien, c'est d'être prudent comme des serpents. Et d'être simple comme une colombe, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être simplet ? Alors, des fois, on l'a traduit par innocent, par pur. Et le mot grec, en fait, aikeiros, qui est là, pour simple, veut dire non mélangé, pur, innocent. Donc, on retrouve cette notion de pureté, d'innocence, mais la notion première, c'est non mélangé. Pas une innocence un peu prude, on ne comprend rien, voilà, on ne sait pas trop. C'est l'idée d'ailleurs qui est reprise dans d'autres textes sur le vin, que le vin ne doit pas être mélangé, il n'y a pas d'avoir un apport étranger dans ce vin-là. Et on pourrait traduire soit « soyez sans mélange », ne soyez pas partagés. Ayez un cœur entier, comme David. Une caractéristique du cœur de David. Le temps passe trop vite, malheureusement. Je vais quand même aborder le deuxième point que je pense que je terminerai la prochaine fois. Mais je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant. Donc, c'est pour ça que ce serait une série. On est trop limité par le temps. Mais c'est bon aussi de ne pas savoir s'arrêter. Donc, une autre caractéristique du cœur de David, c'était un cœur, pas seulement entier, mais un cœur qui adore. Qui adore. David, c'est d'abord un adorateur avant d'être un roi. Ah bon ? Oui. Si vous regardez la vie de David, c'est quelqu'un d'absolument transparent au début. Voilà, Samuel arrive dans cette famille, il n'est même pas là, le petit là-bas, dans les champs, avec les troupeaux, c'est le petit dernier. Oh, le petit dernier, c'est pas important. En plus, il n'est pas aussi costaud que ses frères. C'est David, c'est ce petit blond, ce petit garçon avec un beau visage, avec sa harpe là, dans les champs, en train de chanter. Waouh, vous aviez déjà imaginé le roi David comme ça ? Avant d'être le roi guerrier qui a des victoires, qui bat Goliath, c'était ça, David. Avant même qu'il soit sur les champs de bataille, que sa renommée soit grande par rapport à Goliath, c'était ce petit garçon avec sa harpe qui loue le Seigneur dans la nature, en faisant paître le troupeau de la famille. Qui aurait pu penser qu'il allait devenir roi d'Israël ? Et pourtant, ce qui va le conduire tout au long de sa vie, qui va garder son cœur, c'est un esprit de louange et d'adoration. Même avant qu'il combatte Goliath, quand il est appelé à la cour du roi, c'est pour louer le Seigneur, pour que le roi Saül puisse aller mieux. Avec sa harpe, il est là, à la cour du roi, avant qu'il soit connu sur les champs de bataille. Et David, ça a été un roi adorateur. Dès qu'il a été appelé au service de Dieu, quand il était au service de Saül, il adorait le Seigneur. Quand il était en fuite avec ses hommes de Saül, c'était un homme qui adorait le Seigneur. Quand il a été roi, il est resté lui-même par rapport à ça. Et il a composé tellement de psaumes, d'ailleurs le terme psaume, en hébreu ça veut dire Tehilim, ça veut dire cantique de louange, c'est des louanges les psaumes. Tellement de psaumes où il répand son cœur. Et je crois que c'est fondamental pour une bonne hygiène du cœur. C'est fondamental. La louange et l'adoration sont fondamentales pour cela. Parce que la louange et l'adoration, c'est mettre Dieu à la première place. C'est tout donner à Dieu. Un cœur entier, c'est un cœur entier pour Dieu. Mais l'adoration, c'est encore un pas plus loin. C'est tout donner à Dieu. Je ne retiens rien et je donne à Dieu. Et vous savez que la première apparition du terme adoration dans l'Écriture, c'est au chapitre 22, quand Abraham prend son fils et que Dieu lui a demandé de sacrifier. Vous imaginez le contexte pour lui. Et il dit à son fils, allons là-haut pour adorer Dieu. Et le sacrifice, c'est toi, mon fils, sur l'autel. Vous imaginez, dans ce contexte, adorer Dieu. Adorer quand tout va bien. C'est autre chose que d'adorer dans ce contexte. Donc il y a cette notion de mettre sur l'autel. Nous mettons sur l'autel dans ces moments d'adoration toute notre vie, tout notre travail, nos impressions, nos questions, nos interrogations, peut-être nos difficultés, nos incompréhensions de ce que Dieu fait. Nos souffrances, nos blessures, nous les mettons sur l'autel, nous ne retenons rien. Tout doit aller sur l'autel. Et c'est dans ce moment-là avec Dieu, dans ce moment où on met Dieu, où Dieu est tout, et nous donnons tout à Dieu, que notre cœur peut être purifié, transformé. C'est dans cet acte-là que finalement on peut être renouvelé, nettoyé, transformé. C'est une hygiène. Car on amasse tellement de choses dans notre cœur, dans la marche, dans la vie de tous les jours. Une parole par-ci, un truc par-là, qui nous attaque au plus profond de nous-mêmes et qui laisse des séquelles. Tellement de poussière et de saleté. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand on marchait, il y avait vraiment cette poussière, parce qu'ils avaient des sandales en cuir qui étaient ouvertes, donc c'était vraiment cette... chaque fois qu'on marchait longtemps, on amassait de la poussière et de les saletés. Et d'ailleurs, quand on arrive dans une maison, la première chose qu'on faisait, ce n'était pas se laver les mains, c'était d'abord se laver les pieds, après les mains sans doute, parce que c'était ce qui était le plus sale. D'ailleurs, c'était le travail de l'esclave. L'esclave lavait les pieds des invités qui arrivaient. D'ailleurs, c'est intéressant de penser à Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Ça choque Pierre parce qu'il prend la place d'un esclave à ce moment-là. Bref, ce n'est pas ça que je voulais dire, mais c'était juste qu'on devait se laver ce mouvement. Ça, c'est physiquement, mais spirituellement. La louange et l'adoration. Est-ce que tu prends du temps dans la louange et l'adoration ? Parce que c'est tellement fondamental pour ton cœur, pour laver et purifier tout ce qui s'est déposé dans ta vie, dans ton travail, dans tes interactions autour de toi. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Je vais m'arrêter là, je continuerai sur l'adoration, sur ce cœur d'adorateur qu'avait, dans un contexte bien particulier, quand David a dansé devant tout le peuple et que sa femme, Michal, l'a méprisé pour ce qu'il avait fait. Je vous invite juste à prendre un temps dans la prière maintenant et nous remettre encore à lui. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous montres, au travers de la vie de David, ce qu'est un cœur beau, un cœur bon, pas un cœur parfait. Ce matin, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes pécheurs, nous faisons des erreurs. Mais ce matin, tu veux nous interpeller sur ce qu'il y a au fond de nos cœurs ce matin. Seigneur, sonde-nous. Tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Et viens évaluer si notre cœur est selon toi, si notre cœur est entier pour toi, si au contraire il y a des métastases d'un amour qui n'est pas pour toi entièrement, mais qui est pour autre chose. Et ce matin, pour ceux aussi qui sont fatigués et chargés, tu viens les renouveler, Seigneur. Ce matin, Seigneur, comme dans ces chants de louange, où nous avons pu te dire, tu es notre tout, tu es notre Dieu. Prends, Seigneur, prends ce matin ce qui est peut-être sur notre cœur, qui est lourd. Prends, Seigneur, peut-être nos blessures. Seigneur, et fais-les brûler. On ne veut plus porter ces choses-là dans notre cœur. On ne veut plus porter ce qui nous empêche d'être libres dans notre cœur et d'avoir un cœur léger, d'avoir un cœur tourné vers toi et un cœur qui aime pleinement. Seigneur, viens guérir nos cœurs, viens guérir de ce que nous avons subi, que ce soit des paroles, que ce soit des non-reconnaissances, que ce soit de nos familles, de d'où on vient, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail, tellement de lieux où notre cœur a pu être atteint. Ce matin, nous voulons te dire, nous mettons tout cela sur l'autel. Brûle, Seigneur. Sois glorifié encore au milieu de nous. Et transforme-nous. Au nom de Jésus. Amen.